Alors, je dois vous dire que plus le temps passe pour moi avec Dieu, plus j'avance dans la vie avec Dieu, plus je prends du plaisir dans l'Ancien Testament. Et on trouve, pour moi, dans l'Ancien Testament, tellement d'exemples, de récits, de gens qui ont vécu des choses fortes avec Dieu. On a fait une série il y a quelque temps sur ceux qui ont douté, et c'était vraiment intéressant de voir ces gens qui ont bataillé, qui se sont questionnés. Je me sens un peu proche d'eux, souvent. Et puis là, on est en train de faire une série sur les réveils, et je trouve que c'est aussi vraiment intéressant de voir tous les réveils qu'on a eus, enfin une partie des réveils qu'on a eus dans la Bible, et notamment dans l'Ancien Testament, de voir ces récits, les récits de ces personnes qui ont fait des choix, qui ont eu des vies qui nous inspirent par leur ténacité, par leur engagement, par leur choix, par leur persévérance, par leur exemplarité. Et l'homme que nous allons étudier ce matin, c'est le roi Josias, qui est pour moi vraiment un exemple absolument exceptionnel. Pour bien comprendre l'histoire de ce roi, on va passer un petit peu de temps à se remémorer le contexte, parce que le contexte est particulièrement important à comprendre. Alors au moment du roi Josias, on est au moment des ce qu'on appelle les deux royaumes. Après, tiens, j'ai une petite animation qui ne marche pas bien, c'est pas grave. Après le règne de Salomon, le royaume d'Israël est en proie à des tensions et le royaume se déchire avec au nord Israël, au sud Juda. C'est la conséquence du choix des hommes, des ambitions, des choix qu'ils ont faits. Mais quand on lit la parole, on voit que c'est aussi la sanction que l'Éternel prononce en réponse à l'infidélité de Salomon, qui à la fin de sa vie commence à se tourner vers d'autres dieux, vers les dieux de ses trop nombreuses épouses et concubines. Si on regarde l'histoire d'Israël au nord, aucun roi, dans toute l'histoire d'Israël, à partir du moment où il y a eu cette scission, aucun roi n'a été fidèle à Dieu. Aucun. Et malgré les nombreux prophètes que Dieu a envoyés pour les prévenir, pour les appeler à revenir à Dieu, pour leur annoncer le jugement qui va s'abattre sur eux s'ils ne reviennent pas à l'Éternel, personne ne change, ni le peuple, ni les rois. Ils continuent de faire le mal, ils continuent de rester loin de Dieu, d'adorer d'autres idoles. Et le jugement tombe à travers l'invasion des Assyriens qui vont anéantir Israël et déporter la population en moins 722. À cette époque-là, c'est Ézéchias qui règne en Juda. Ézéchias est fidèle à Dieu et dans quelques semaines, je fais un peu de teasing, Jean-Jacques fera un message sur Ézéchias, donc je ne vais pas en parler trop en détail, mais Dieu va délivrer Jérusalem et Juda du siège des Assyriens de manière absolument miraculeuse. Après Ézéchias, c'est son fils Manassé qui lui succède. Et Manassé, c'est le pire roi de Juda, le pire. Il réinstaure l'idolâtrie, la divination, les sacrifices d'enfants. Lui-même sacrifie ses enfants aux idoles. Et surtout, il entraîne tout le peuple dans le mal. Et c'est le roi qui aura le plus long règne entre Israël et Juda. On voit dans Deux Rois qu'à la fin de sa vie, Dieu l'humilie, il se repent, mais le bilan de son règne est catastrophique. On peut lire deux textes dans 2 Rois 21, les versets 9 et 16. Manassé les égara sur une mauvaise voie, les c'est le peuple, en sorte qu'ils firent encore plus de mal que le peuple, que les peuples étrangers que l'Éternel avait exterminés au profit des Israélites. Quand Israël conquiert le pays promis, c'est à la fois une bénédiction pour Israël, Dieu leur donne ce pays, mais c'est en même temps un jugement qui tombe sur les habitants de ces pays-là parce qu'ils font le mal. Et là, Juda fait pire sous le règne de Manassé parce que Manassé les entraîne dans le mal. Verset 16, on peut lire aussi Manassé, fit aussi tuer beaucoup de gens innocents au point que Jérusalem fut remplie d'un bout à l'autre de ses victimes. sans compter les péchés dans lesquels il entraîna Judas, en faisant ce que l'Éternel considère comme mal. » On a ces deux versets qui nous expliquent que Manassé a été un mauvais roi, que Manassé a fait le mal, et que Manassé a égaré le peuple qui s'est laissé entraîner dans un mal comme il n'y avait jamais eu jusqu'à présent. Et entre ces deux versets, il y a la sentence que l'Éternel annonce. Alors, par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes, l'Éternel dit : À cause du roi Manassé, roi de Juda, qui s'est rendu coupable de tous ses actes abominables, et qui a même fait pire que tout ce qu'avaient fait avant lui les Amoréens, et qui a entraîné le peuple de Juda dans le péché d'idolâtrie, voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël : Je vais amener sur Jérusalem et sur Juda un malheur, tel que tous ceux qui en entendront parler seront abasourdis. Je vais faire subir à Jérusalem le même sort qu'à Samarie, et je la réduirai au même état que la descendance d'Akab. Donc on parle d'Israël qui a été anéanti. Je viderai la ville de ses habitants comme on nettoie un plat et qu'on le retourne à l'envers après l'avoir nettoyé. J'abandonnerai ce qui reste du peuple qui m'appartient et je le livrerai au pouvoir de ses ennemis qui le pilleront et le dépouilleront. J'agirai ainsi parce qu'ils ont fait ce que je considère comme mal et qu'ils n'ont pas cessé de m'irriter depuis le jour où leurs ancêtres sont sortis d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. La sentence tombe. Jusqu'à présent, les prophètes avaient averti que la condamnation risquait d'arriver. Et là, maintenant, la condamnation est prononcée. Jérusalem et le royaume de Juda seront détruits par ordre de l'Éternel. Ce n'est pas une réaction intempestive de l'Éternel, comme un coup de sang, ça y est, il s'est énervé, c'était trop. Non, c'est simplement l'application des termes de l'Alliance qu'il a conclue avec son peuple. Si on lit Deutéronome 28, on voit exactement cela. Dans Deutéronome 28, dans l'alliance renouvelée au moment d'entrer dans le pays promis, l'Éternel dit à son peuple : Voilà toutes les bénédictions que je vais vous accorder si vous me restez fidèles. Mais si vous vous éloignez de moi, voilà tous les malheurs qui vont vous arriver : l'exil, la maladie, la famine, etc., etc. Et ces malheurs ne sont pas forcément un but en soi. Parce que quand on continue notre lecture, on tombe sur Deutéronome 30 qui dit que si le peuple revient après s'être éloigné, si le peuple revient après avoir fait le mal, alors Dieu aura compassion. Alors Dieu prendra plaisir à restaurer et à bénir à nouveau le peuple. Parce que ces malheurs ne sont pas juste un but en soi, mais ils appellent à la prise de conscience du peuple. Dieu les utilise pour appeler le peuple à la repentance, pour qu'ils reviennent à Dieu. Après Manassé, c'est Amon, son fils, qui lui succède et qui suit le mauvais exemple de son père. Deux Chroniques 33 nous dit que Amon se rendit extrêmement coupable devant l'Éternel. Pas juste coupable, extrêmement coupable. Amon ne règne que 2 ans parce qu'il est victime d'un complot et il meurt assassiné par ses ministres. Sauf que le peuple ne l'entend pas de cette oreille, donc il massacre tous ceux qui avaient comploté, qui avaient tué Amon, et il proclame Josias, le fils d'Amon, roi de Juda. Donc, on est dans ce contexte-là. Israël s'est détourné de l'Éternel, n'est jamais revenu à l'Éternel. L'Éternel a envoyé le malheur, le pays d'Israël n'existe plus. Le royaume de Juda, la sentence a été prononcée. Dieu a dit : Je vais exterminer Juda et Jérusalem. Josias devient roi à 8 ans avec ce passif, dans ce contexte. Un contexte de violence, un père assassiné. Ce qu'il connaît, ce qu'il a vu, ce qu'il a vécu, ce sont les exemples de son père, de son grand-père, des rois champions du mal, champions de l'idolâtrie, et qui ont emmené avec eux tout le peuple dans le péché. Et on arrive sur 2 Chroniques, chapitre 34. Josias avait 8 ans à son avènement, et il régna 31 ans à Jérusalem. Il fit ce que l'Éternel considère comme juste et suivit l'exemple de son ancêtre David, sans jamais s'en écarter, ni d'un côté, ni de l'autre. Dès la 8e année de son règne, alors qu'il était encore jeune, il entreprit de chercher à plaire au Dieu de David, son ancêtre. Et la 12e année, il se mit à purifier Juda et Jérusalem des hauts lieux, des pieux sacrés d'Achéra, des idoles de bois sculptées et des idoles en métal fondu. On démolit en sa présence les autels des Baals. On abattit les autels à parfum placés sur ces autels. Il coupa les pieux sacrés d'Achéra, brisa les idoles sculptées ou fondues et les réduisit en poussière qu'il dispersa sur les tombes de ceux qui avaient offert des sacrifices à ces faux dieux. Il brûla les ossements des prêtres des idoles sur leurs autels. C'est ainsi qu'il purifia Juda et Jérusalem. Puis il passa dans les villes de Manassé, la région, pas le roi, d'Éphraïm, de Siméon jusqu'en Nephtali, et fit de même dans les ruines aux alentours. Il démolit les autels et les pieux sacrés d'Achéra, brisa les statues d'idoles et les réduisit en poussière. Il abattit tous les autels à parfum dans tout le pays d'Israël. Ensuite, il retourna à Jérusalem. Rupture totale avec tout ce que le royaume de Juda a connu, vécu avec son père et son grand-père. À l'âge de 15 ou 16 ans, il se met activement à la recherche de Dieu et de rechercher sa volonté. 4 ans plus tard, ça veut dire qu'il est entre 19 et 20 ans, il se lance dans des réformes radicales. On a lu ici un petit extrait, mais vous savez que dans le livre des rois, on a le parallèle un petit peu du livre des chroniques, et le livre des rois nous donne un peu plus de détails encore dans tout ce qu'il fait, et on voit que Josias se lance dans un travail minutieux, exhaustif, de purification totale et radicale du pays. Il fait abattre, brûler et détruire toutes les idoles et tous les lieux de culte. On démolit en sa présence. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le roi se promène pour vérifier que ses ordres sont bien accomplis, jusqu'au bout. C'est tellement important pour lui qu'il vient voir qu'effectivement, tous les autels sont détruits. C'est tellement important de plaire à Dieu et de purifier le pays qu'il va faire brûler des ossements humains sur ses autels. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire juste que dans la culture qu'ils ont, le fait de brûler des ossements humains sur les autels, ça rend le lieu impur. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a détruit l'autel et qu'il part, si les gens viennent et reconstruisent, ils ne peuvent plus offrir de sacrifice dans leur croyance parce qu'il y a eu des ossements humains qui ont été brûlés. Donc il fait en sorte que le peuple ne puisse pas revenir à ses idoles derrière, qu'il ne recommence pas. On peut lire dans ce récit de deux rois qu'il fait démolir les maisons des prostituées sacrées, qu'il abat les autels, profane les sanctuaires, qu'il fait tuer ceux qui évoquent les esprits des morts et ceux qui font de la divination. Il va faire ça en Juda, sur tout le territoire, mais quand on lit le texte, on voit qu'il le fait même sur l'ancien territoire d'Israël. Il va bien au-delà de son pays, Israël, qui est sous domination assyrienne. C'est-à-dire qu'il va défier presque l'empire assyrien en allant dans un pays qui n'est pas le sien, pour aller détruire ses autels. Pourquoi il fait ça ? Parce qu'il y avait encore beaucoup d'échanges avec le pays d'Israël. Il y avait encore des gens d'Israël qui venaient à Jérusalem au temple, et il y avait beaucoup de gens de Juda qui allaient au nord dans les lieux saints, entre guillemets, de ces idoles. Et donc il va même purger au-delà de son pays. Il fait preuve d'un engagement total et radical. Pas de compromis pour lui. L'Éternel est le seul vrai Dieu, et tout ce qui pourrait détourner le peuple de Dieu disparaît. Mais c'est pas tout. Parce que ce que fait Josias, c'est pas juste supprimer tous les hauts lieux idolâtres, il veut aussi honorer Dieu en restaurant le temple. Et Josias lance un chantier de rénovation du temple, grandiose. Et là, au moment de lancer les travaux, le prêtre Hilkia découvre un rouleau du livre de la loi. Il découvre un rouleau du livre de la loi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y avait une partie de la loi qu'on avait complètement oubliée, qui n'était plus lue. On ne savait même plus que c'était là. Alors les spécialistes débattent pour savoir est-ce que c'était toute la loi, c'est-à-dire la Torah, les cinq premiers livres de la Bible, ou est-ce que c'était juste le Deutéronome. Peu importe, à la limite. Ça montre quoi ? Ça montre juste que la lecture de la loi était tombée en désuétude. Et là, le prêtre Hilkia découvre ce rouleau, le lit et va vite le lire au roi Josias. Et la réaction de Josias est immédiate. Lorsque Josias entendit le contenu de la loi, il déchira ses vêtements. Puis il convoqua Hilkia, Ahikam, fils de Chafan, Abdon, fils de Miché, Chafan, le secrétaire, et Azaïa, l'un des ministres. « Allez consulter l'Éternel pour moi, leur dit-il, ainsi que pour le reste du peuple qui se trouve en Israël et en Juda, au sujet des enseignements du livre que l'on vient de retrouver. Car la colère de l'Éternel est bien grande. Elle s'est répandue sur nous parce que nos ancêtres n'ont pas obéi à la parole de l'Éternel et n'ont pas appliqué tout ce qui est écrit dans ce livre. Allez consulter l'Éternel pour moi, car sa colère est bien grande. » Alors le ministre, le secrétaire, le prêtre s'exécutent et vont consulter Hulda, une prophétesse. Et Hulda reçoit une parole de l'Éternel pour eux. Et elle leur dit de la part de Dieu, on peut le lire dans 2 Chroniques 34, 24 et 25, « Je vais faire venir un malheur sur cette contrée et sur ses habitants en accomplissant toutes les malédictions inscrites dans ce livre. En effet, parce qu'ils m'ont abandonné et qu'ils ont fait brûler des parfums à d'autres dieux et parce qu'ils m'ont ainsi irrité par toute leur conduite, ma colère s'est répandue sur le lieu et elle n'est pas prête de s'apaiser. » La malédiction, le malheur annoncé du temps de Manassé est confirmé. Mais Hulda a une parole pour Josias. Et si on continue notre lecture, on peut lire « Tu as entendu les paroles contenues dans ce livre. Ton cœur s'est laissé toucher. Tu t'es humilié devant Dieu en entendant ce qu'il a déclaré contre ce lieu et contre ses habitants. Tu t'es humilié devant moi. Tu as déchiré tes vêtements et tu as pleuré devant moi. De mon côté, moi aussi, j'ai entendu ta prière, l'Éternel le déclare. C'est pourquoi je te ferai rejoindre tes ancêtres décédés et tu seras déposé paisiblement dans l'un de tes tombeaux sans avoir vu tout le malheur que je vais amener sur cette contrée et sur ses habitants. » Josias pourrait se dire « Ouf, j'échappe à ce malheur. Voilà, tout va bien pour moi, mais non. » Ce n'est pas ce qu'il va se dire. Et sa réaction est immédiate. Juste après, on peut lire « Le roi Josias fit convoquer auprès de lui tous les responsables de Juda et Jérusalem. Puis il monta au temple de l'Éternel, accompagné de toute la population de Juda et des habitants de Jérusalem, des prêtres, des lévites et de tous les gens du peuple, quelle que fût leur condition sociale. Devant tous, il lut tout ce qui était écrit dans le livre de l'Alliance que l'on avait retrouvé au temple de l'Éternel. Il se tint debout sur l'estrade qui lui était réservée et en présence de l'Éternel, il conclut cette alliance avec lui, par laquelle il s'engagea à être fidèle à l'Éternel et à obéir à ses commandements, à ses lois et à ses ordonnances, de tout son cœur et de tout son être, et à appliquer toutes les clauses de l'alliance figurant dans ce livre. Le roi fit aussi prendre ce même engagement à tous les gens qui se trouvaient à Jérusalem et dans tout le territoire de Benjamin. Et les habitants de Jérusalem se conformèrent au terme de l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Et là, quand on continue la lecture, on voit que Josias fait célébrer une Pâque extraordinaire, une célébration phénoménale. La fête de la Pâque était, comme le livre de la loi, tombée en désuétude. On avait oublié qu'il fallait faire une fête pour la Pâque. Et donc, Josias réinstaure ça. Les prêtres se purifient. Tout est super bien organisé. Je ne vous lis pas le chapitre 35. Les trois quarts du chapitre 35, c'est juste l'organisation de cet événement exceptionnel qui dure 7 jours. Et ce qui est frappant, c'est que c'est juste grandiose. C'est démesuré. Josias, par exemple, offre pour cette Pâque de ses propres troupeaux 30 000 agneaux et 3 000 bœufs. 30 000 agneaux et 3 000 bœufs. On est à peu près 7 000 à Pontcharrat. Si on était des agneaux, il y aurait 5 Pontcharrats. pour le sacrifice. Ouh, bon, mauvais exemple. Les grands de son royaume suivent son exemple et font de même en donnant de leur propre cheptel, et on rajoute quelques milliers de bêtes. Et au verset 18, on peut lire « Aucune Pâque semblable n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel, depuis le commencement des rois. » D'accord ? Aucune Pâque semblable n'avait été célébrée en Israël depuis l'époque du prophète Samuel, avant Salomon, avant David. Il n'y a pas eu une Pâque aussi grandiose, aussi phénoménale, aussi démesurée. Aucun des rois d'Israël n'avait organisé de célébration de la Pâque comparable à la Pâque célébrée par Josias, avec l'aide des prêtres et des lévites, avec tout Juda et ceux d'Israël qui se trouvaient là, ainsi que les habitants de Jérusalem. Le truc de fou. L'événement de folie de toute l'histoire de ce pays. C'est là, sous Josias. Et à la fin du chapitre, juste après ce verset-là, l'auteur passe à autre chose, il nous raconte juste la mort de Josias au cours d'une bataille contre les armées égyptiennes. Et là, quand on lit ce récit, il y a quand même une question qui reste en suspens pour nous. Dieu avait annoncé un malheur. Où est-ce qu'on en est de ce malheur ? Puisque l'alliance a été renouvelée. Cette Pâque grandiose, on a un moment d'une intensité exceptionnelle. Josias s'est humilié et a renouvelé l'alliance et le peuple a signé. C'est encore marqué là. Le peuple a renouvelé cette alliance. Les habitants de Jérusalem se conformèrent au terme de l'alliance de Dieu, du Dieu de leurs ancêtres. Est-ce que Dieu a renoncé à son malheur alors ? Je vous ai parlé de Deutéronome 30. Où Dieu dit, si vous revenez à moi, je vous accueille. C'est le message de tous les prophètes qu'il a envoyé. Revenez à moi et je vous accueillerai. On trouve la réponse dans le passage parallèle de 2 Rois 23. 2 Rois 23 qui fait le bilan des réformes de Josias. Et on peut lire dans 2 Rois 23, aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel, de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces, en observant toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en parut point de semblable. Oh, quel bilan pour Josias. Je continue ma lecture. Néanmoins, l'Éternel n'abandonna pas la grande et ardente colère dans laquelle il était entré contre Juda, à cause des nombreux crimes par lesquels Manassé l'avait irrité. C'est pourquoi il décida, je chasserai aussi Juda loin de moi, comme j'ai chassé Israël. Et je rejetterai cette ville, Jérusalem, que j'avais choisie, ainsi que le temple où j'avais promis d'établir ma présence. Mais pourquoi ? Seigneur, pourquoi ? On a eu cette fête absolument phénoménale. Tout le peuple a dit, oui, maintenant on renouvelle l'alliance, on suit, on y va. Et Dieu ne renonce pas à son malheur. Alors peut-être il aurait fallu consulter de nouveau Hulda pour dire, mais est-ce que Dieu n'a vraiment pas changé d'avis ? Pourquoi ? Effectivement, il y avait plusieurs prophètes à cette époque-là. Il y avait Hulda et d'autres qui n'ont pas laissé d'écrit. Il y a ceux qui en ont laissé. Il y avait Habacuc, mais lui, il a parlé un petit peu plus tard. Il y avait Sophonie, qui a parlé un petit peu avant les réformes de Josias. Et il y avait aussi Jérémie. Jérémie qui a commencé son ministère sous le règne de Josias. Et qu'est-ce qu'on peut lire dans Jérémie ? Donc c'est Jérémie qui parle. « L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait Israël l'infidèle ? Elle qui allait sur toute montagne élevée sous tout arbre vert pour s'y prostituer ? Et moi, je me disais, après avoir fait tout cela, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, Juda, la perfide, en a été témoin. Elle a bien vu que j'ai répudié Israël l'infidèle et que je lui ai donné sa lettre de divorce à cause de tous les adultères qu'elle avait commis. Mais sa sœur, Juda la perfide, n'en a ressenti aucune crainte. Au contraire, elle est allée se prostituer à son tour. Par sa légèreté à se débaucher, Israël a souillé tout le pays, commettant l'adultère avec des idoles de bois et de pierre. Et malgré tout cela, sa sœur, Juda la perfide, n'est pas revenue à moi de tout son cœur. Son retour n'était qu'un leurre. L'Éternel le déclare. Son retour n'était qu'un leurre. Dieu utilise cette belle image du couple pour parler de sa relation avec son peuple, comme Jésus parle de sa relation avec l'Église au travers de cette image du couple. Israël, la nation du Nord, s'est prostituée, n'a pas été fidèle à Dieu, et Dieu espérait son retour. Dieu espérait son retour, mais ce retour n'a pas eu lieu. Alors Dieu la répudie, la renvoie, et fait venir le malheur sur Israël. Judas, qui a vu toute cette histoire, aurait dû en tirer des leçons, aurait dû s'inspirer de ce qui s'est passé. Mais non. Mais non. Et le retour à Dieu n'était qu'un leurre, qu'une tromperie. Il avait l'apparence de la sincérité, mais il n'avait pas la vraie sincérité, le cœur de la sincérité. On est en train de faire une série sur le réveil. Et là, oui, on assiste à un réveil. Le réveil du roi, Josias. Mais on assiste aussi à un rendez-vous raté. Toutes les conditions semblaient idéales pour qu'il y ait aussi le réveil parmi ce peuple. Un roi exemplaire. Mais ça n'a pas été le cas. Maintenant qu'on a bien compris ce texte, et vous voyez que c'était important de resituer vraiment le texte dans son contexte. Qu'est-ce qu'on peut en tirer pour nous ? On va repartir de ce culte avec quoi ? Une histoire qu'on a juste vue avec un éclairage plus intense ? Le bilan de la vie de Josias est tellement élogieux que ça doit nous servir d'exemple. Aucun roi avant Josias ne revint comme lui à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être et de toutes ses forces. En observant toute la loi de Moïse, et après lui, il n'en parut de semblable. Josias avait un cœur entier pour Dieu. Et bien sûr, ça peut et ça doit nous inspirer, nous servir d'exemple et nous encourager. Qu'est-ce que dans la vie et les actions de Josias peut nous servir de modèle, nous encourager, nous inspirer? Ce qu'on peut voir, c'est que dès le départ, l'engagement de Josias pour Dieu est radical. Radical. L'engagement, le cœur entier de Josias pour Dieu se traduit par un engagement radical, se traduit par une purification totale de son royaume. Tout ce qui pouvait prendre la place de Dieu, toutes les idoles, tout ce qui pouvait éloigner de Dieu, les autels, les devins, les nécromanciens, tout a été supprimé, détruit, anéanti. Josias a compris qu'il n'y avait aucun compromis possible. Et il purifie son royaume. Le problème, ce n'est pas que les Judéens avaient rejeté ouvertement Dieu. Parce qu'on avait toujours le temple, ils continuaient d'avoir une vie cultuelle selon les rites, la loi de Moïse, etc. Le problème pour les Judéens, c'est qu'ils s'étaient un peu diversifiés. Un peu comme les investissements bancaires. On ne va pas mettre tous nos œufs dans le même panier. On ne sait jamais ce qui pourrait arriver, autant un peu se diversifier. Autant aller voir les différents dieux, si jamais il y en a un qui répond un peu moins, peut-être qu'un autre sera plus favorable. Le problème, c'est que si Dieu n'est pas totalement suffisant, si Dieu n'est pas tout, alors il n'est pas totalement Dieu pour moi. Et c'est intéressant de voir que dans les autres récits de réveil qu'on a, les autres exemples, je fais référence aux autres messages qu'on a pu entendre ou ce que vous pouvez lire aussi dans ces récits de réveil, de retour véritable à Dieu, on voit qu'à chaque fois, c'est le peuple lui-même qui va purifier le pays. C'est le peuple qui va détruire les autels. C'est le peuple qui va brûler les idoles. Mais là, il n'y a que Josias qui le fait. Il n'y a que lui qui est conscient du problème. Pour Josias, Dieu est Dieu, le seul, le vivant, l'unique. Et le reste n'a aucune place. Il est tout pour lui et il ne compte que sur lui. Dimanche dernier, Samuel nous avait présenté un autre récit du livre de Samuel, si vous vous souvenez. Et il nous avait posé la question... Est-ce que nous aussi, on n'a pas des idoles ? Qu'est-ce que c'est les idoles aujourd'hui ? Et on avait un peu discuté de vive voix sur ce sujet. Et j'ai trouvé que c'était une question vraiment intéressante parce que oui, il y en a. Et j'ai trouvé que c'était une question qui n'était pas forcément facile à répondre. Dans certaines cultures, il y a véritablement des idoles comme on les retrouve dans l'Ancien Testament. Mais chez nous aujourd'hui. Et en réfléchissant un peu à la question, j'ai pensé à trois choses. La première, c'est que les idoles, pour faire le lien avec ce que vivaient les Judéens, ce qu'on peut vivre aujourd'hui, c'est ce qu'on adore, ce qu'on va louer. Ils apportent leurs louanges et leurs adorations à ces idoles, et c'est ce que nous aussi, on peut louer, admirer, ce vers quoi on veut tendre, ce vers quoi on veut ressembler de manière peut-être inappropriée. Il y a quelque chose d'adorable, d'admirable, d'attirant qui m'attire vers ces idoles. Et bien souvent, ce qui m'attire ou ce que je peux trouver louable ou adorable a des choses en lien avec mon identité. De la même manière qu'à l'époque, chaque peuple avait ses dieux, parfois chaque ville avait ses dieux, ses idoles. On retrouve ça parfois sur certains types de populations, certains métiers. Chacun avait leur dieu parce que c'était en lien avec leur identité. Et derrière ce que je veux louer, ce que j'adore, ce qui m'attire, ce qui m'impressionne, ce que je regarde, ce à quoi j'ai envie de ressembler, il y a la question de mon identité. Il y a aussi la question de l'offrande et du sacrifice dans les idoles. Pourquoi j'accepte de sacrifier ce qui est précieux à ceci ou cela ? Et dans l'idée, ce que les gens faisaient quand ils sacrifiaient des choses précieuses, on a vu qu'ils le faisaient même avec leurs enfants, qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Ils veulent apporter à l'idole quelque chose qui a de la valeur. Parce qu'en apportant à l'idole quelque chose qui a de la valeur, ils veulent avoir de la valeur aux yeux de l'idole pour que l'idole puisse faire quelque chose qui leur soit favorable. N'est-ce pas ? Quand je vais sacrifier des choses qui sont précieuses, c'est parce que quelque part je veux apporter de la valeur là et que ça aille dans mon sens. Et il y a la question de ma valeur qui est là derrière. Et puis il y a la question aussi de pourquoi est-ce qu'ils font ces sacrifices-là, ces offrandes ? Ben c'est parce qu'ils veulent que les idoles fassent des choses qui vont dans leur sens. C'est-à-dire qu'ils veulent bien souvent la protection, le bien-être, des choses qui vont les combler. Et on le voit aussi dans le récit du peuple d'Israël. Quand le malheur arrive, parfois ils vont revenir à l'Éternel, parfois ils vont encore plus adorer les idoles. Parce qu'on va chercher ce qui va nous combler, ce qui va nous rassurer, ce qui va nous protéger. Où est-ce que je cherche mon identité ? Où est-ce que je cherche ma valeur ? Où est-ce que je cherche ma sécurité ? On voit qu'on est en train de toucher à des choses fondamentales, essentielles, centrales de notre existence, qui sont au cœur de nos vies. Et on voit qu'effectivement, avoir un cœur entier pour Dieu, c'est se dire que c'est là derrière que je vais trouver et chercher ce qui définit mon identité, ma valeur, ma sécurité. Et quand je vais commencer à les chercher ailleurs, alors peut-être que je commence à avoir des idoles là derrière. L'autre point du cœur entier pour Dieu qu'on voit chez Josias, c'est la relation authentique qu'il a avec Dieu et qui se traduit par la recherche et la crainte de Dieu. L'auteur nous le dit dès le début, il cherche Dieu. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans la plupart des réveils, la recherche et la crainte de Dieu qui conduit à cette relation authentique et un lien particulier avec la parole de Dieu. Un lien particulier avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est donnée et dans le cœur de celui qui craint Dieu, elle produit son effet. Et je trouve surprenant dans le récit qu'on a vu que Josias, qui a un cœur pour Dieu, qui dès le début cherche Dieu, purifie son royaume, rénove le temple, il est engagé, il est attaché, il a tout bon. Et il démontre par ses actes que oui, effectivement, il a un cœur entier pour Dieu. Et pourtant, quand on lui fait la lecture de la parole de Dieu, il tombe à genoux. Alors qu'il est déjà engagé pour Dieu. Quand on lui fait la lecture de la parole de Dieu, il s'humilie. Il déchire ses vêtements. Il pleure. Pardon. Par contraste, juste après ça, On fait la lecture de la parole de Dieu au peuple. Qu'est-ce qui se passe? Rien. Rien. Josias, qui a déjà tout de bon, lui fait la lecture de la parole de Dieu et il en est bouleversé. Mais le peuple qui est loin de Dieu, on lui fait la lecture de la parole de Dieu. Rien. Son amour pour Dieu, sa recherche de Dieu, sa crainte de Dieu le conduit à cette relation authentique qui lui permet d'avoir les yeux ouverts, de comprendre ce que Dieu dit, de voir comment Dieu juge la situation et d'être touché. Et il agit. Il agit. Et le peuple, lui, n'est pas touché. Il continue sa vie. Il continue son culte. Mais comment on l'a vu, uniquement dans les apparences. Comme malheureusement, parfois, on trouve des gens dans nos églises qui se disent que tout va bien parce qu'ils font des bonnes actions, parce qu'ils ont les bonnes valeurs, parce qu'ils viennent à l'église, parce qu'ils prient, parce qu'en apparence, ils font tout comme il faut. 2 Chroniques 34, verset 33, nous dit de Josias, « Il obligea tous les gens qui se trouvaient en Israël à servir l'Éternel, leur Dieu. De cette manière, ils ne se détournèrent pas de l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, durant toute la vie de Josias. Ils ne se détournèrent pas de l'Éternel. Tout allait bien en apparence. Mais où était leur cœur? Leur retour à Dieu n'était qu'un leurre. Est-ce qu'ils craignaient Dieu? Est-ce qu'ils cherchaient Dieu? Est-ce qu'ils aimaient Dieu? Est-ce qu'ils avaient cette relation authentique? Est-ce qu'ils se laissaient toucher par la parole de Dieu? Non, ils n'avaient que l'apparence. Le dernier point que je vois dans la vie de Josias, c'est que le peuple renouvelle l'alliance avec Dieu et participe à la plus grande célébration de Pâques de toute l'histoire du peuple hébreu. Il n'y a pas eu de moment plus grandiose. Ils ont vécu un moment d'une intensité, d'une grandeur phénoménale. La plus grande fête de l'histoire de ce peuple. Et après, rien. Dieu nous fait parfois la grâce de vivre avec lui des moments un peu comme cela, des moments d'une grande intensité, des moments exaltants. C'est peut-être pendant un camp, moi je sais que pendant quand j'étais jeune, je vivais des grands moments avec Dieu. C'est peut-être pendant une rencontre, c'est peut-être pendant un concert, pendant un culte, pendant un temps de louange. C'est peut-être tout seul dans notre chambre. C'était peut-être au moment de notre conversion, au moment de notre baptême, ou un moment complètement inattendu dans notre vie. On vit quelque chose de fort. On vit quelque chose d'intense, quelque chose qui nous marque dans notre vie. Et on ne peut pas l'oublier. Et on a l'impression que c'est ces moments-là qui nous font avancer avec Dieu. Parce qu'on a vécu quelque chose de fort et d'intense. Et après, ben, on attend de revivre un moment comme ça. On a envie de revivre un moment comme ça. Et on part à la recherche de moments comme ça. Des moments forts et des moments intenses. Et on va chercher à participer à des grands événements. On va peut-être se poser la question de changer d'église. On va se dire qu'on n'a pas assez de foi ou qu'on ne laisse pas assez de place à l'esprit parce qu'on a du mal, là, on ne retrouve pas ces moments-là. Et on va nourrir notre insatisfaction. Et cette histoire de Josias, elle me rappelle quoi? Elle me rappelle que ce n'est pas l'intensité du moment qui est le plus important dans ma marche avec Dieu. C'est ma persévérance. Josias a été persévérant tout au long de sa vie. Son travail de réforme, il ne s'est pas fait en un claquement de doigts. Ça a pris du temps. Josias a persévéré toute sa vie dans sa relation authentique, dans son engagement radical. Le peuple, lui, il a juste vécu ce moment intense. Regardez la différence. Je ne dis pas que ces moments intenses sont une mauvaise chose. Dieu nous en permet. Et merci Seigneur pour ces moments forts, intenses. Ils nous font du bien, ils nous encouragent. Et si Dieu nous les donne, ben on a besoin de les vivre parfois. Mais ce n'est pas l'intensité du moment qui est le plus important dans ma marche avec Dieu. C'est ma persévérance. Je voudrais juste conclure par ces trois points pour nous aider à réfléchir à notre relation avec Dieu. Je crois qu'on aimerait tous qu'à la fin de notre vie, on nous dise « Oui, il était attaché à l'Éternel de tout son cœur, de tout son être ». De toutes ses forces, de tout son cœur, de tout son être, de toutes ses forces. Qu'est-ce que ça voulait dire pour Josias? Ça voulait dire un engagement radical, sans compromis. C'est en Dieu qu'il a tout trouvé. son identité, sa valeur, sa sécurité, tout. Une relation authentique, pas en apparence, mais un cœur à cœur, qui fait qu'il pouvait être touché par la parole de Dieu. Et la persévérance tout au long de sa vie. Je vous invite à prier. Oui, Seigneur, merci pour l'excellence de l'exemple de ce roi qui a radicalement changé tout ce que ce pays avait vécu jusqu'à présent, avant lui, qui s'est engagé pour toi pleinement, totalement. Seigneur, que ce récit nous encourage, nous serve d'exemple pour nous à rester attachés à toi de manière totale, complète, à être engagés de manière aussi radicale pour toi, à ne chercher qu'en toi notre secours, notre identité, notre valeur. Seigneur, aide-nous à avoir une relation authentique, à pas chercher les apparences, à pas chercher à être de bons chrétiens devant tout le monde, mais à être vraiment cœur à cœur avec toi. Permets-nous d'être touchés par ta parole. Merci pour les moments intenses que tu nous permets de vivre. Merci pour les moments où, justement, on vit quelque chose de fort. Mais Seigneur, que ça ne soit pas que cela que nous recherchions, mais que tu nous aides à persévérer chaque jour, à être fidèles dans la lecture de ta parole, dans la prière, dans le temps passé avec toi, dans le désir de te connaître, dans le désir de t'obéir. Seigneur, merci parce que ce chemin que nous faisons ensemble, nous ne le faisons pas seuls, mais tu es avec nous. Par ton esprit, tu nous encourages, tu nous guides, tu nous reprends, tu nous accompagnes. Merci pour ta présence.